Pour aborder la question du désir, chez Hamlet donc, je m'appuie sur l'enseignement de Jacques Lacan dans le séminaire 6, Le désir et son interprétation, que Lacan a donné en 1958-1959 et séminaire établi qui parut en 2013, dans lequel Lacan passe 7 leçons sur Hamlet. Alors, que nous apprend Lacan avec Hamlet ? Hamlet tergiverse et procrastine, comme on dirait aujourd'hui. Il n'accomplit pas la vengeance édictée par son père. Pourquoi ? Qu'arrive-t-il dès le début de la pièce ? La pièce s'ouvre sur une crise, celle d'Hamlet après avoir reçu la parole du spectre. Le désir d'Hamlet est soudain émoussé. On en trouve le baromètre dans son rapport à Ophélie. Lacan insiste, il nous dit « Hamlet est la tragédie du désir ». Que peut vouloir dire, je cite Lacan, « que peut vouloir dire que le désir est ici, par rapport à l'action, la fonction d'un obstacle ?» En effet, que s'est-il passé ? Pourquoi Hamlet ne peut plus soutenir son désir ? La thèse de Lacan est qu'Hamlet a été empoisonné par les paroles du spectre de son père. Nous allons voir ce qui est révélé. Donc, je vous lis un passage de l'acte 1, scène 5, dans cette édition folio, page 95. Donc, c'est le spectre qui parle à Hamlet. « Oui, cette bête incestueuse, adultère, par la sorcellerie de son esprit, par ses perfides cadeaux, ô perfides esprits et perfides cadeaux, qui ont le pouvoir de séduire de la sorte, a gagné à son infâme luxure le désir de ma reine au semblant si vertueux. Ô Hamlet, quelle chute ce fut là, quand mon amour était si digne, qu'il allait main dans la main avec la foi jurée le jour du mariage, s'abaisser jusqu'à un misérable dont les dons naturels étaient si pauvres au regard des miens. Mais de même que la vertu ne se laisse jamais ébranler, même quand la lubricité la courtise sous la forme du ciel, de même la luxure serait-elle accouplée à un ange radieux et vite rassasiée dans un lit sanctifié, et fait sa proie d'immondices. » Ça continue, je m'arrête là. Donc voilà ce qui est révélé à Hamlet. Alors, chute de l'idéal. Il y a, d'une part, la révélation que le père a été fauché dans la fleur même de son péché. On trouve ça dans Hamlet. Ce qui vient entamer l'idéal de la fonction paternelle. C'est la face du père réel et de sa jouissance qui, pour Lacan, vient, dans ce séminaire 6, donc vient vider le lieu de la parole, d'une consistance ou d'une garantie dernière. Cela dévoile un manque structural à pouvoir cerner la jouissance. Donc il y a une chute de l'idéal. Lacan dit, transfigurant un petit peu Hamlet, « Il y a quelque chose de pourri au royaume du père ». Jusque-là, pour Hamlet, l'autre existait qui reposait sur le père et lui fournissait ses réponses, des réponses. Hamlet rencontre à ce moment-là l'expérience de l'autre qui n'existe pas, c'est-à-dire que l'autre ne peut lui donner la garantie de ce qu'il est ou de ce qu'il lui faut. Donc l'idéal qui chute d'un coup produit une traversée sauvage du fantasme qui dévoile l'objet petit a, l'occurrence. La chute de l'idéal provoque la montée sur la scène de l'objet. C'est un moment de surgissement du réel. L'objet en trop, pas suffisamment voilé, produit l'angoisse. Le voile du fantasme est déchiré et précipite une traversée sauvage du fantasme. C'est différent, complètement différent, cette déchirure sauvage du fantasme peut être ce qui va favoriser ou va induire une demande d'analyse, par exemple. Mais donc, il peut arriver qu'on trouve ça au début d'une analyse, mais c'est ce qui va produire l'entrée dans l'analyse, mais ce n'est pas ce qui est produit au début d'une analyse, par contre, par l'analyse elle-même. Donc, c'est différent de ce que le parcours analytique doit produire. Il doit bien produire une traversée du fantasme, mais non sauvage, et un écart entre l'idéal du moi et l'objectita, c'est-à-dire une chute des idéaux un à un, progressivement au cours de l'analyse, et non pas d'un coup au début. Alors, je vous ai dit que le spectre, donc d'une part, il y a cette révélation que donc la chute de l'idéal du côté du père, et puis, d'autre part, le trop de jouissance de la mère. Donc, il y a, d'autre part, les paroles concernant la conduite de sa mère. Le spectre du père dévoile le trop de la jouissance de la mère. Il lui est révélé, ce qui porte un coup fatal au désir d'Hamlet, quelque chose de l'autre réel, dit Lacan. Hamlet rencontre la mère en tant que femme, c'est-à-dire pas toute soumise à la logique phallique, pas toute mère. Ce que le spectre met à nu, c'est la mère telle qu'elle est, qui est moins désir que gloutonnerie, c'est l'expression de Lacan. L'idéal d'Hamlet s'effondre devant la perspective du désir de l'autre d'une voracité absolue. Donc l'idéal est donc touché de diverses façons, par les révélations du père pêcheur et de la voracité de la mère, par le remariage de Gertrude trop rapide qui court-circuite la valeur rituelle du deuil. Donc le fantasme est touché, nous allons voir comment. Hamlet est en crise, dirait-on aujourd'hui. Donc s'ensuit la folie d'Hamlet et le rejet de l'objet Ophélie, devant lequel le sujet Hamlet vacille. Hamlet fait le fou pour oublier ce savoir insupportable. Celui qui sait, dit Lacan, est dans une position dangereuse. Fin de citation. C'est un savoir qui tue le désir. La révélation du spectre a ravagé le système signifiant. Le système signifiant, c'est croire en la parole pour seule garantie de la non-garantie du lieu de l'autre. C'est ce qui est là ébranlé et laisse apparaître la non-garantie du lieu de l'autre. C'est précisément ce que reçoit Hamlet comme réponse de l'autre. Donc Lacan fait partir le drame d'Hamlet de ce point. Donc le spectre a déphallicisé le monde d'Hamlet, le réduisant à l'objet, dans sa crudité. Donc il dévoile la crudité de la vie, ce qui ravage Hamlet. Hamlet rencontre le réel de la jouissance sous les auspices de celle de son père et de celle d'une femme, sa mère. Ce savoir l'encombrera désormais. Un voile est levé, celui qui pèse justement sur l'articulation de la ligne inconsciente. C'est ce voile que nous-mêmes, analystes, essayons de lever dans notre pratique, non sans qu'il nous donne quelques fils à retordre. Ce voile doit bien avoir quelques fonctions essentielles pour la sécurité du sujet en tant qu'il parle. Donc, le fantasme qui est un rempart, un voile face au réel, devant le réel. Cette traversée sauvage du fantasme, en tant que ce voile se déchire, a des conséquences sur le désir. L'amour révoqué. Donc Lacan interprète le discours du spectre ainsi. Le spectre dit qu'il faut faire cesser la luxure de la reine. Donc il met en cause le désir de la mère et non le désir pour la mère. C'est donc pas une question oedipienne. La question n'est pas oedipienne. Il met en cause le désir de la mère et donc non pas le désir pour la mère. Que dit le père ? Le père dit qu'il a été trahi par l'amour. Il révèle crûment sa version de l'amour. Il a subi la trahison, l'amour est donc révoqué. Les semblants sont révoqués, l'amour est destitué. Le sens de ce qu'Hamlet apprend, c'est l'irrémédiable, absolu, insondable trahison de l'amour le plus pur. Cette révélation radicale plonge Hamlet dans cette sorte de stupeur. Donc, Hamlet a été amoureux d'Ophélie jusqu'à sa rencontre avec le spectre. Depuis, il ne sait plus ce que c'est que l'amour. Il en est anéanti. Le personnage d'Ophélie permet d'en montrer les conséquences sur le sujet Hamlet vis-à-vis de l'objet de son désir, une fois qu'il a eu affaire avec le réel de l'autre maternel, illimité, sans pudeur, ravalant tout objet digne, donc Agalma, le roi Hamlet, à un objet indigne, déprécié, Paléa, le roi Claudius, tout aussi bon à assouvir la jouissance. Si la mère peut ainsi passer d'un objet digne à un objet indigne, l'idéal en prend un coup. Dépersonnalisation et ravalement de l'objet d'amour. Hamlet a perdu la route, la voie de son désir. Quelles conséquences sur les objets de son désir ? Lacan insiste sur ce moment où Hamlet retrouve Ophélie après sa rencontre avec le spectre du père. Hamlet est désorganisé sur un plan subjectif, dépersonnalisé. Il ne reconnaît plus Ophélie. Voici comment elle décrit Hamlet. Le seigneur Hamlet, son pourpoint tout dégrafé, sans chapeau sur la tête, ses bas crottés, sans jarretière et retombant sur ses chevilles, pâle comme sa chemise, claquant des genoux et avec un regard si pitoyable qu'on eût dit que l'enfer l'avait relâché pour en dire les terreurs. Il s'avance vers moi. Pour en dire les terreurs, il s'avance vers moi. Hamlet a rencontré l'enfer. Et ceci a des conséquences, donc, sur son fantasme et donc sur son désir. Le fantasme est touché, donc le désir l'est aussi. Le sujet vacille devant l'objet exalté jusque-là. L'objet sublime du désir se trouve ensuite par une oscillation objet déchu. Ophélie est dissoute en tant qu'objet d'amour parce que l'amour lui-même a été révoqué. Ophélie est soudain rabaissée, ravalée, mise au même rang que la mère. Dans ce moment de dépersonnalisation, le rapport d'Hamlet aux femmes s'en trouve anéanti. Il annonce à Ophélie non qu'il ne l'aime plus, mais qu'il ne l'a jamais aimée. Il la maudit en tant qu'elle deviendra la porteuse d'enfants et de tous les péchés, et support d'une vie condamnée. Crise et décomposition du fantasme. Donc une telle désorganisation subjective ne peut se produire que si quelque chose vacille dans le fantasme. Nous dit Lacan donc, dans ce séminaire 6. La dépersonnalisation d'Hamlet indexe la décomposition du fantasme. Comme je vous l'ai dit, le voile du fantasme s'est déchiré. Le fantasme bascule entièrement du côté de l'objet. Il devient pervers. Et Ophélie n'est alors plus traitée comme une femme. Une horreur de la féminité se déclare crûment. La mère comme objet petit a. Le paroxysme de la pièce, nous dit Lacan, se situe dans le dialogue entre Hamlet et sa mère, où le fantasme bascule à nouveau du côté de l'objet petit a. Hamlet a des mots très durs pour qualifier l'excès de jouissance de la femme qu'est sa mère. Quoi ? Vivre dans la sueur rance d'un lit poisseux, mariner dans le stupre, faire le câlin et l'amour dans une bauge infecte. Donc, ça c'est Hamlet dans l'acte 3, scène 4. Et plus loin. N'allez pas au lit de mon oncle, réfrénez-vous ce soir. Hamlet compare les vertus de son père et l'abjection de son oncle. Il demande à sa mère de ne pas détruire la beauté du monde. Son appel à l'abstinence se retourne soudain. Le désir de la mère ne saurait d'aucune façon être dominé, dit Lacan. L'objet reconquis. Hamlet retrouvera le chemin de son désir dans la scène du cimetière. Par procuration, il s'appuie sur le spectacle du travail de deuil d'un autre idéal, Laërte, donc le frère d'Ophélie. Il rejoint Ophélie dans la tombe, réintègre l'objet petit a par le fait de voir la douleur de Laërte sur la tombe de sa sœur. Ophélie est reconstituée comme objet d'amour par l'intermédiaire de Laërte. Elle reprend toute sa valeur. Du fait de sa mort, elle redevient un objet impossible. L'objet n'est ici reconquis qu'au prix du deuil et de la mort. Donc pour conclure, le fantasme est le terme de la question du sujet, le lieu où la question du sujet sur son désir trouve sa réponse, c'est-à-dire comme le nec plus ultra du désir. Dans un moment de crise, le fantasme est atteint. On voit bien comment une série de conséquences logiques en découle. La crise à la fois ouvre un trou et découvre un objet qui surgit de la déchirure du voile du fantasme. Dans ce moment de crise, Hamlet est confronté donc à la chute de l'idéal qui, d'une part, propulse le sujet vers la rencontre avec une absence de garantie dans l'autre et, d'autre part, produit une traversée sauvage du fantasme qui dévoile l'objet, petit a. Ceci précipite le sujet dans une crise avec ses effets de détresse, d'angoisse, de dépersonnalisation, d'inhibition, de dépression et donc ses conséquences directes sur le désir. Merci. Thank you.